Alors bonsoir les amis, nous sommes sur le salon du livre, le festival du livre pardon, pour la 36e édition, et j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège, la fierté aussi de recevoir Régis Geoffrey.
Bonjour.
Régis Geoffrey, bonjour. Non, mais je le dis parce que vous faites partie de mon panthéon. Quand j'ai commencé à faire des émissions de radio de lecture de texte, j'étais tombé sur vos micro-fictions 2008, 2018, 2022. Alors ça, je ne peux que le recommander à tout le monde, tellement j'ai trouvé ça fort. Enfin, je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça fort, de toute façon. Mais ce sont des nouvelles. Vous avez eu le prix Goncourt de la nouvelle en 2018. Et ce sont des nouvelles qui sont sur une page recto verso. Est-ce que...
C'est un format assez naturel, en fait.
Oui.
Je crois que c'est le format le plus naturel de la fiction. C'est à peu près cette dimension. Dans cette dimension, on peut dire, on peut raconter une histoire en entier, en fait.
Oui. La forme courte.
Exactement.
Y compris dans la réponse. Mais là, vous déclinez toutes les perversions de la société, parce que c'est de l'humour noir en permanence.
Oui, pas seulement les perversions, mais ce qu'il y a, c'est que comme il y a un grand nombre d'histoires, l'intérêt, c'est d'arriver en fait à raconter vraiment de la fiction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on parle plus de soi, parce qu'on dit toujours que les écrivains parlent d'eux-mêmes, ce qui est vrai d'une certaine façon. Là, quand vous imaginez une histoire différente tous les jours, en fait, vous ne parlez plus de vous à un moment.
Oui, mais vous êtes quand même dans la société, parce que quand on voit celle de les nouvelles que vous écrivez en 2008, c'est pas du tout la même tonalité en 2018 et encore moins en 2022. Il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Tout à fait, et d'ailleurs l'époque a changé.
Oui, l'époque a changé. Oui.
Ne serait-ce qu'au niveau numérique, parce que 2008, c'était le début d'Internet, c'était 2007 d'ailleurs. Et après, il y a eu l'avenue des réseaux sociaux, il y a eu un certain nombre de choses. Il y a eu la pandémie, dont je parle beaucoup dans le Microfiction 2022.
Ouais.
Je pense que ça a été un événement considérable, qu'on n'a pas une idée encore claire de ce que c'est, mais quand on voit le traumatisme que ça a pu être pour les enfants, par exemple, pour les enfants, c'est un moment de l'histoire. La pandémie.
Je suis pas sûr que ce soit uniquement pour les enfants.
Non, c'est pour tout le monde. Mais...
Les adultes ont pris un sacré jeton aussi. Hein.
Voilà, et puis on s'est aperçu à quel point on pouvait être... Moi, c'est ce qui me frappe, c'est la docilité de tout le monde et la mienne aussi. C'est-à-dire, du jour au lendemain, d'accepter de ne pas sortir,
c'était assez extraordinaire.
C'était affreux, mais tout le monde a accepté.
Ouais.
Ça, c'est assez... C'est assez curieux. Même les gens les plus rebelles ne se sont pas révoltés contre ces mesures.
Ouais.
C'est étrange.
C'est très étonnant. À l'échelle du monde, ça s'est passé en plus.
Tout à fait.
Alors, j'ai lu, et c'est pour être un peu plus général, quelques papiers là, vous concernant, où notamment vous parlez de la destruction de la langue.
Mm-hmm.
On est dans une actualité qui est à la fois de la langue, mais aussi du langage.
Plutôt du langage, ouais. Moi je parle du langage.
D'accord.
Je parle du langage parce que le langage est extrêmement grave, parce que ce sont des notions qui s'en vont. Je parle toujours de cet exemple que j'avais entendu à France Culture, c'est un enseignant qui disait qu'il avait des gosses de 3e, hein, je pense à peu près. Il essayait d'expliquer ce qu'était une métaphore. Alors il leur a dit, une métaphore, c'est comme si je disais, je suis à l'automne de ma vie. Et il s'est aperçu que les gosses ne savaient pas ce que c'était que l'automne.
Ouais.
Voilà. Donc quand on ne sait pas le sens du mot automne, eh ben, c'est l'automne qui disparaît.
Oui.
Voilà. Quand on ne sait pas tous les termes qu'on peut employer pour dire joie ou pour dire tristesse, ce sont des états d'âme qui disparaissent aussi. Ce qu'on ne peut pas nommer n'existe pas. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas nommer n'existent pas. Une étoile existe à partir du moment où elle est nommée. Et donc, quand les notions ne peuvent plus être nommées, on a affaire à des... La pensée, c'est le langage. Donc, on réduit petit à petit la pensée. Et d'ailleurs, on a une baisse du quotient intellectuel. Alors, je pense qu'il va remonter parce qu'on va changer, la façon de le calculer. Mais c'est quand même beaucoup basé sur vocabulaire.
Ouais.
Voilà, donc c'est une inquiétude parce que le manque de langage, c'est la violence aussi.
Ah oui.
Quand on ne peut pas nommer les choses.
L'autre jour, j'entendais, comment elle s'appelle, là, celle qui a écrit sur le ressentiment, là. La philosophe...
Je vois qui voulait dire, oui. Mais je n'ai pas les mémoire
des noms. Et donc, elle parle du langage grotesque et de parce que là, vous parlez de la déperdition au niveau du sens, au niveau du mot, du vocabulaire, mais ce n'est pas seulement forcément uniquement ça, la destruction du langage tel qu'elle est aujourd'hui, puisque là, aujourd'hui, là... on est en post-réalité, post-vérité, post-je-sais-pas-quoi, post... on est dans le mensonge, on est dans... avec plus aucune... il y a une destruction qui est intégrale du langage. Pas seulement au niveau du sens du mot, mais dans la façon de parler également, la façon de s'adresser aux gens, où là, c'est du mensonge... 24/24 sans... J'ai beaucoup aimé la dernière intervention de Donald Trump à propos de Quiet Piggy, où il dit ta gueule petite cochonne, et ensuite son comité de vient faire un correctif sur le mode il est franc. ça pourrait être dans une de vos nouvelles.
Ouais, c'est vrai qu'il est franc. Hein. On va dire ça.
Il est franc. Alors, autre chose, toujours, mais cette fois-ci, c'est plus sur le langage, mais c'est sur l'écriture. Vous avez écrit, par rapport à cette irruption de l'IA qui arrive comme une dingue, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous dites... écrire un roman à base d'IA, c'est comme envoyer un robot faire l'amour à sa place.
Oui, il n'y a pas la joie d'écrire, oui, c'est sûr.
Ouais.
Mais l'IA, je ne sais pas trop quoi en dire, parce qu'en fait, on est à l'aube de quelque chose, mais comme on ne sait pas exactement quoi, peut-être qu'en fait, c'est beaucoup moins que ce qu'on dit, mais si c'est autant que ce que ça laisse présager, il est évident que tout sera mis en question. Tout sera remis en question, y compris la littérature, y compris l'écriture. D'ores et déjà, moi, il me semble qu'avec le corpus qui existe, je pense que bientôt, on pourra avoir de nouveaux romans de Balzac.
Oui.
Je pense que ça, on est dans le domaine du possible. Mais peut-être que je suis dans le délire total, parce qu'on est au départ, on est au départ de quelque chose. Et c'est très difficile de prévoir l'avenir, comme chacun le sait.
Oui, mais vous êtes quand même à la pointe, parce que quand vous faites Flaubert, vous reprenez Flaubert et vous écrivez comme Flaubert, il me semble. C'est ça, le dernier bain de Gustave Flaubert. Là vous faites de l'IA façon Régis Jaufray.
Non, je ne vois pas trop le rapport, ouais. Mais... non, l'IA, c'est une question à part, mais qui va beaucoup remettre en question les choses, de toute façon. Je pense que ça remet surtout en question... En fait, plus la pensée encore, parce que je pense qu'avec le corpus qui existe au niveau des philosophes, je pense qu'on pourrait très sérieusement écrire de nouveaux livres qui n'ont pas eu le temps d'écrire, parce qu'en définitive, un philosophe, à partir d'un certain âge, il puise dans les choses qu'il a déjà écrites. C'est la suite de ce qu'il a déjà écrit.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un grand intérêt à l'avenir, mais je ne sais pas, personne ne l'a fait. Personne ne s'en est occupé. Je pense que... Oui, je vous dis, on est à... Au moins, j'aurais vécu pour voir quelque chose de nouveau. Voilà. Pour moi, là, devant l'IA, je suis devant quelque chose de nouveau pour la première... Je parle de l'IA générative, hein, qui est
oui,
une branche
oui, oui.
Que certains disent mineure, hein, d'ailleurs, de l'IA. Et peut-être que c'est un délire complet et qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi énormes qu'on le pense, mais je serais fort étonné.
Ouais.
Très fort étonné.
Comment je reprends là sur cette histoire de Flaubert.
Je ne sais pas si j'ai écrit... J'ai pas essayé d'écrire comme Flaubert. Hein.
Non.
Non, je pense pas. Non. Non, ça n'a pas été le but du livre.
Et c'était quoi le but du livre ?
Le but, le but, c'était... J'ai repris Flaubert comme si j'étais Flaubert et j'ai raconté sa mort. Voilà, et toute sa vie. C'était le but du livre, si vous voulez, c'est que... Je suis très flaubertien au sens où c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué. C'est un des auteurs qui m'a le plus marqué, c'est Flaubert, à cause de sa correspondance. Donc c'est l'auteur que je connais le mieux à cause de sa correspondance. Donc c'était quelque chose de très familier. Moi, de parler de Flaubert ou de faire parler Flaubert, c'était quelque chose qui était quelque chose de très proche pour moi. C'était quelque chose qui m'était naturel. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Oui, oui. Bah enfin, je n'ai pas toute la correspondance de Flaubert, mais j'ai lu les passages où il se balade dans le monde, où il invente le tourisme de masse. Enfin, il fait ça tout seul. Mais il va se balader en Grèce, il va se balader au Liban, il va se balader
tourisme
en Égypte.
Tourisme de masse, oui. Comme vous y allez, parce que c'est un voyage qui a coûté une fortune.
Hein. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... pardon, je fais un raccourci. Oui. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, et lui a fait à l'époque.
Le voyage en Orient.
Oui, c'est ça, le voyage en Orient. Oui. D'ailleurs, c'est assez amusant, ce voyage en Orient, où il passe son temps à aller visiter... Bon, et bien sûr, il visite des trucs et des machins, mais...
Des bordels.
Oui, des bordels, oui, j'osais pas le dire. Voilà. Je savais pas comment j'allais y arriver.
Les danseurs, les danseuses, oui, tout à fait.
Oui.
On dit même qu'il a attrapé la syphilis.
Oui. Oui, bien sûr.
Avec une très célèbre prostituée dont le nom m'échappe. Je sais pas si c'est vrai.
Bon, alors, Régis Geoffrey, Le dernier bain de Gustave Flaubert, ça c'est absolument à lire. Les micro-fictions, franchement. C'est absolument indispensable également. Et alors là, le dernier, après avoir fait papa,
c'est maman.
Vous faites maman.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous revenez sur...
C'est-à-dire que j'avais parlé de mon père parce que je l'avais vu arrêté par la Gestapo à la télévision, si j'ose dire. Donc c'était le point de départ. Et là, le livre sur ma mère, le point de départ, c'est son décès. Et c'est les choses que j'ai pu découvrir à son propos après son décès. C'est ça qui a provoqué l'écriture du livre sur ma mère. Autrement, c'était pas prévu. J'avais pas du tout prévu dans ma vie d'écrire ni sur mon père ni sur ma mère. C'était pas du tout des sujets. D'ailleurs, quand j'ai écrit sur mon père, il était mort depuis 34 ans, je crois. Et donc j'ai écrit. Ma mère a vécu jusqu'à 106 ans. Donc j'ai écrit juste après. 5 ans après son décès, elle est morte en 2020. Et c'est les découvertes que j'ai faites à son sujet qui m'ont poussé à l'écrire. C'est-à-dire que j'ai découvert une femme que je ne connaissais pas en réalité après sa mort.
Ah oui. Et vous êtes dans l'humour noir là aussi ou pas ? Parce que c'est quand même une constante chez vous, l'humour noir.
Je sais pas, l'humour noir, moi, je sais pas quelque chose ni que je recherche, ni que je repousse. J'allais dire, vous savez, l'écriture, c'est un peu comme une empreinte digitale ou ou un ADN.
Oui.
C'est pas quelque chose qu'on peut tellement modifier. Donc je pense que je l'écris avec mon écriture habituelle, je pense qu'on peut pas écrire avec une autre écriture que la sienne. Et donc l'humour noir, je sais pas. Puisque vous dites qu'il y a toujours de l'humour noir, il doit y en avoir aussi. Il y en a dans ce livre aussi. J'ai eu le Grand Prix de l'humour noir. Hein.
Oui.
Voilà.
Quand même là. Est-ce que j'ai vite fait c'est dommage que j'ai pas. Bonheur strict, je prends au hasard.
Oui, je vous en prie. Hein ?
Le soleil est interdit de séjour dans mon appartement. Je n'ouvre mes volets que la nuit, quand il est couché depuis longtemps. Même au fin fond du mois, de l'hiver, il est éblouissant. Il découpe les objets et les gens comme un rasoir. Je préfère la clarté de la lune quand elle n'est pas encore pleine, celle des lampes, des veilleuses. Je vis du produit des loyers de cet immeuble dont les 6 étages m'appartiennent et dont je n'occupe qu'une centaine de mètres carrés. Je n'ai jamais travaillé qu'à accroître mon confort psychique. Je suis marié depuis 30 ans. J'ai refusé d'avoir des enfants pour éviter de me propager et par peur du bruit. J'aime bien le côté pour éviter de me propager et par peur du bruit. Ma femme aime la lumière et l'agitation. Je l'encourage à sortir, à attraper une insolation au parc Manceau, à écouter les motos démarrer au feu vert, à faire partie d'une foule aux contours trop nets en traversant la ville de part en part. À son retour, elle me décrit les nouvelles affiches publicitaires, me parle d'une chanson entendue par la vitre ouverte d'une voiture, d'une rue défoncée au marteau-piqueur, d'une femme nue sous sa robe trempée par un orage de juillet, d'un chien d'importation large, presque jaune, bas sur pattes, tenu en laisse par une dame chapeautée, liftée et pourtant visiblement sexagénaire. Et depuis une éternité, j'ai vu aussi un homme dont la tête ressemblait à une asperge. Ma femme est une prothèse efficace, un bras articulé qui va glaner les informations dont j'ai besoin afin de garder un contact quotidien avec le monde extérieur. Nous sortons cependant une fois par semaine pour aller dîner dans une brasserie. Nous nous installons toujours à la même table, perdue dans un recoin de la salle, d'où je peux observer discrètement les clients et les disséquer comme un légiste qui étendrait des vivants sur sa paillasse en échange d'une compensation financière ou d'une boîte de Havane. J'ai l'ouïe assez fine pour distinguer leurs paroles, le cerveau assez vif pour suivre en parallèle plusieurs conversations à la fois. Je m'enfonce dans leur vie comme dans un étui. Je déterre sous leurs éclats de rire les drames qui ont jonché leur existence et à leur façon de porter un verre à la bouche, de découper leur viande d'une main blanche et fine ou lourde et couverte de cicatrices. Je détecte les frustrations qui les empêcheront toujours de flotter comme moi dans un bonheur strict. Moi, je n'y peux rien, mais ça me
fait rire. Ça vous fait rire.
Je trouve ça super drôle.
Mais tant mieux, écoutez.
Et c'est tout, est comme ça. Bon.
J'allais pas tout lire, là.
Hein? N'allez non, pas. J'ai pas tout lire.
Lecture générale.
Non, il veut que je coupe. Oui. C'est dommage. On avait un grand moment de littérature.
Ouais. Tout à fait.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci infiniment.
Bonne soirée.
Oui, merci.
Au revoir.